Jean, chapitre 5, à partir du verset 1. Alors la version, je crois que c'est la version Summer. Ah, c'est vrai qu'avec les téléphones, on peut tout de suite s'adapter. Après cela, et à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Elle possède 5 portiques sous lesquels gisait une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents, qui attendaient l'agitation de l'eau. Car, à certains moments, l'ange du Seigneur descendait dans la piscine, l'eau s'agitait et le premier qui y entrait, après que l'eau avait bouillonné, était guéri, quelle que fût sa maladie. Il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu guérir ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter et le temps d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son grabat et il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Aussi les Juifs dirent-ils à celui qui venait d'être guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Verset 14. Mais il leur répliqua, « Celui qui m'a rendu la santé, c'est celui qui m'a dit, « Prends ton grabat et marche. » Ils l'interrogèrent, « Qui est cet homme qui t'a dit, « Prends ton grabat et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas, car Jésus s'était éloigné de la foule qui se trouvait en ce lieu. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà bien portant, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » Cet homme s'en alla, alors je vais lire directement ici parce que je ne sais plus ce que j'ai mis sur le PowerPoint. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivirent Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Alors c'est un passage qui dénote, je trouve, dans les évangiles. Il y a un ange qui vient de temps en temps agiter l'eau d'une piscine. Et le premier dans l'eau, il est guéri. Alors pourquoi je dis que ça dénote? Parce qu'en fait, dans les évangiles, Jésus, il tente de dépoussiérer la foi des pharisiens, des scribes, des gens qui sont assez dans les rituels, assez religieux, et qui finalement s'en tiennent vraiment à des choses automatiques. Donc il passe beaucoup de temps à vouloir revivifier la foi des gens. Mais là, on tombe sur un passage où on a un ange qui vient de temps en temps remuer l'eau d'une piscine, et le premier dedans, il est guéri. Donc on se dit, qu'est-ce que ça vient faire là, dans le récit des évangiles, dans la vie de Jésus? Pourquoi on est témoin de cette scène? Alors, c'est vrai que Jésus passe son temps à dépoussiérer la foi, ça c'est clair. Et c'est vrai que là, dans ce passage, on a cette idée que chacun attend avec son ticket gagnant. Si je suis là au moment où l'eau bouillonne, je vais être guéri. Mais en tant que tel, cet acte, est-ce que ça faisait grandir dans la connaissance de Dieu? Est-ce que ça amenait les gens à reconnaître leurs fautes? Est-ce que ça nous aidait à reconnaître ce que voulait Dieu dans son royaume, ce qu'il voulait faire sur terre? En tant que tel, non. C'est juste un acte un petit peu magique, mais ça ne l'était pas, puisque c'est un ange du Seigneur, mais c'était un acte un petit peu mystérieux où on n'apprenait pas forcément grand-chose, si ce n'est que le premier arrivé, c'était le premier servi. Et voilà. Alors moi, ce que je vous propose ce matin, c'est d'enquêter ensemble et de voir point par point ce qu'on peut retirer de ce passage et voir en quoi ça peut booster notre foi dans notre vie de tous les jours. Alors si on regarde ce passage et qu'on enquête ensemble, la première chose qu'on peut dire, c'est que les anges existent. Les anges existent et travaillent pour la gloire de Dieu. Ce passage nous rappelle qu'il y a des anges qui existent et qui font des choses merveilleuses qu'on ne voit pas, mais qui contribuent à l'avancée du royaume de Dieu. La deuxième chose, c'est que les anges sont des messagers. Ça, on le sait dans la Bible, les anges sont des messagers. Sauf que là, le message, c'est pas évident forcément de comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire par ces guérisons ? La troisième chose, c'est que Bethesda, c'est à Jérusalem, c'est en Israël. Donc ça, c'est un signe important parce que ça veut dire que c'est pas dans la piscine municipale de Montélimar qu'il a fait ça. On aurait aimé. Il fait ça en Israël, dans la période où Jésus arrive. Donc on se dit, tiens, c'est intéressant. Et puis l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que cet ange suscite une attente, puisque tout le monde est au bord de la piscine. Normalement, tout le monde est autour de Jésus et on attend quelque chose de lui. Mais dans cette scène, Jésus va rejoindre des gens qui sont autour d'une piscine parce qu'ils attendent que l'ange intervienne. Jésus a suscité une attente parce qu'on attendait le Messie, mais cet ange suscitait une attente. Il y a un peu la même idée aussi. On attendait le sauveur qui viendrait délivrer Israël, mais on attendait aussi cet ange qui viendrait guérir, évidemment, le premier qui serait dans l'eau. Un autre point aussi qu'on peut noter dans ce passage, c'est que ce n'est pas l'eau qui guérit en tant que telle, c'est le fait qu'elle bouillonne. Donc c'est celui qui va sanctifier l'eau qui va guérir. Ce n'est pas de l'eau bénite magique qui restera comme ça. Non, non. À un moment donné, l'ange vient, il fait bouillonner. Et à ce moment-là, la personne qui va rentrer dans l'eau va guérir. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, petite parenthèse, dans le grec, il y a écrit que l'eau, en français on est mis s'agiter, mais dans le grec, elle bouillonne. Ça veut dire qu'elle devait monter en température jusqu'à créer l'ébullition. Et ça, c'est juste pour la petite minute d'histoire. En fait, les bains et les bassins, ça existait évidemment déjà, mais ce passage, il va inspirer les premiers baptistères dans les églises primitives à mettre des systèmes d'alimentation sous pression pour alimenter les baptistères en eau courante, mais aussi pour pouvoir les faire bouillonner. Donc ils mettaient des systèmes en place, et c'était inspiré notamment de ce passage, parce qu'il y avait cette idée que l'eau qui bouillonne, c'était quelque chose de bienfaisant. Voilà, ça c'est juste la petite parenthèse. Et puis le dernier point, c'est que on ne savait pas quand l'ange allait venir dans ce passage, de temps en temps. D'après la tradition, on a 2000 ans de théologie, on a pas mal d'interprètes, de théologiens. D'après la tradition, on dit que c'est une fois par an, mais c'est pas écrit. Il n'y a pas écrit qu'il venait une fois par an. Donc on ne savait pas quand il allait venir, c'était aléatoire. Donc là aussi, c'est assez curieux, c'est assez mystérieux. Alors que Jésus, il est venu, et on savait où il était là, l'ange, pour le coup, on ne sait pas. Et le dernier point que j'ai noté, c'est que la foule est réunie le jour du sabbat. Peut-être, le texte ne le dit pas, donc on prend des pincettes, peut-être que c'est parce que dans le passé, il était déjà venu ce jour-là, et qu'on s'est dit que au prochain sabbat, ça risque d'arriver. C'est une supposition. En tout cas, et c'est là tout l'enjeu du passage, en fait, c'est parce que c'est le jour du sabbat que Jésus va avoir des problèmes avec les pharisiens. Ça, c'est sûr, ça, on le voit. Les pharisiens ont toujours interdit à Jésus de faire des guérisons le jour du sabbat. Mais alors, ce qui est assez ironique, c'est qu'ils ne pouvaient pas interdire l'ange de faire ça. On ne va pas aller voir l'ange en lui disant « Écoute, j'ai lu les Écritures, tu ne peux pas faire ça le jour du sabbat. » L'ange du Seigneur, il fait ce qu'il veut. Donc s'il vient faire bouillonner l'eau, il le fait. Donc ils ne pouvaient pas interdire à l'ange de faire des miracles ce jour-là. Par contre, Jésus, ils vont aller le voir. Et c'est ça qui est paradoxal. L'ange du Seigneur pouvait guérir le jour du sabbat, mais pas Jésus. Ce qui nous fait dire, par rapport aux pharisiens qui vont vraiment embêter Jésus ce jour-là, que Dieu ne tord jamais sa parole, ça c'est certain, mais il tord parfois la compréhension qu'on peut en avoir. Et ça c'est sûr. Souvent il réforme les choses, notre façon de voir les choses, de les aborder. Mais ce passage, il dit quoi? Il dit que Jésus va guérir ce paralytique. 38 ans. 38 ans, c'est une vie. Hein. 38 ans, c'est quand même compliqué. Les pharisiens vont le condamner pour ça. Et le jour du sabbat, qui était censé être un jour de libération, un jour de repos, ça devient un jour d'oppression. Ils ont tout tordu. Le jour du sabbat, qui était censé être un jour de libération, de bonheur, de repos, ça devient un jour d'oppression à cause de la religiosité d'une poignée de chefs religieux de l'époque. Alors avec tout ça, comment comprendre ce passage? Comment on peut comprendre des passages comme ça un peu mystérieux? Eh bien, je crois qu'il faut faire un parallèle entre ce qu'a fait l'ange à Bethesda et le ministère de Jésus. Si on commence à comparer un petit peu, comme on l'a vu tout à l'heure, on va commencer à comprendre en fait qu'est-ce que ça vient faire là. L'ange à Bethesda, il venait qu'occasionnellement. Mais Jésus, il est toujours là. Il est toujours là. L'ange, il venait de temps en temps. Mais Jésus, dans notre vie, il ne vient pas de temps en temps. Il est toujours là. On voit bien qu'il y a la fin d'une ère à Bethesda quand Jésus arrive. L'ange de Bethesda, il était à Jérusalem, alors que Jésus, il dépasse les frontières. Il n'est pas limité géographiquement. Il n'est pas limité à un lieu. Il faut bien comprendre que quand il va toucher, guérir, il ne va même pas le toucher en fait, il va lui dire qu'il est guéri, il est en train de briser des frontières qui étaient déjà à l'époque limitées dans un terrain, dans un territoire, dans un lieu. Il est en train de briser ça en disant ça peut être n'importe où. Où que tu sois, dans ton travail, dans ta famille, où que tu sois, Dieu peut agir. Il n'y a plus de limitation à ce niveau-là. L'autre chose aussi qu'on peut dire, c'est que l'ange de Bethesda ne guérissait que la première personne dans la piscine, alors que Jésus a fait tellement et fait tellement de miracles et de prodiges que déjà à l'époque, on ne pouvait pas tout mettre dans tous les livres qui n'auraient pas pu contenir toutes ses œuvres, tous ses miracles. Pour nous, aujourd'hui, on se dit, c'est Dieu, il est infini, il peut faire tout le temps. Mais à l'époque, ce n'était pas un acquis. À l'époque, on attendait un ange qui venait ponctuellement, ou des phénomènes comme ça ponctuels, ce n'était pas un acquis à l'époque. Mais Jésus vient pour dire, il n'y a plus de frontières à mon amour, il n'y a plus de zones qui sont hors de portée. Tu n'es plus hors de portée où que tu sois, quoi que tu fasses, je peux venir, je peux intervenir là où tu es. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage? En gros, ce qu'on en a dit en théologie, c'est que c'était une image du baptême. Voilà. L'eau de Bethesda, c'est le baptême qu'on a tous, ou peut-être tous reçu, ou qu'on va recevoir, ou qu'on réfléchit de recevoir. C'est-à-dire se lier à Dieu, se repentir et avoir une nouvelle vie avec Dieu. Mais moi, je dirais surtout que ce plongeon dans la piscine de Bethesda, c'est un rappel de toutes les promesses liées à notre baptême. Et j'ai fouillé un petit peu, notamment chez les pères de l'Église, au IVe siècle, hein, c'était pas hier, et vous allez voir ce qu'ils disaient déjà à l'époque de ce passage et de l'implication que ça pouvait avoir dans la vie des chrétiens. À cette époque-là, en figure, celui qui descendait dans la piscine, le premier, était seul guéri. Combien plus grande est la grâce de l'Église où sont sauvés tous ceux qui descendent? Jadis, quand un homme était descendu dans l'eau, la puissance du remède était épuisée. Mais à l'avènement du Seigneur, il n'en est plus de même. Le premier qui descend dans la piscine des eaux du baptême n'est pas seul guéri. Quand il y aurait 10 000, 100 000, une multitude innombrable, quand toute la terre descendrait dans la piscine, la grâce ne serait pas diminuée. Elle resterait la même et aussi puissante. On disait ça au IVe siècle. Et Ambroise de Milan, il ne vient pas de Bethel Church, Californie. À l'époque, ils n'étaient pas vus comme forcément par certains des gens un petit peu extravagants. Non, c'était ce qu'on pensait à l'époque, en théologie sérieuse. On pensait que la grâce de Dieu n'était pas épuisée, qu'il y avait une puissance, il y avait quelque chose d'assez incroyable. Je vais vous citer un autre père de l'Église, Chromas. L'eau de cette piscine de Bethesda ne s'agitait qu'une seule fois par an, alors que l'eau du baptême de l'Église est toujours prête à s'agiter. L'eau de la piscine ne s'agitait quand qu'en ce seul lieu, alors que celle du baptême s'agit dans le monde entier. Là, l'eau ne guérissait qu'un seul homme par an. Ici, chaque jour, ce sont des peuples qu'elle sauve. L'eau de la piscine ne guérissait que le corps, celle du baptême guérit à la fois le corps et l'âme. L'une ne guérissait que la maladie, l'autre guérit même le péché. Toutes les promesses liées au baptême. C'est pas épuisé. La grâce de Dieu n'est pas épuisée. Elle n'est pas épuisée. C'est une ressource illimitée. Et j'aimerais rajouter une dernière chose. C'est que dans ce passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'homme qui est assis au bord de la piscine, le paralytique, il attend. Et quand Jésus vient le voir et lui demande s'il veut être guéri, eh bien il lui dit, « Seigneur, je n'ai personne. » On peut dire beaucoup de choses sur ce passage. Moi, un des points qui me frappe dans ce passage, c'est ça, « J'ai personne, je suis seul. » Je me sens seul, abandonné. Je vois tout le monde qui avance. Je suis sur le bord de la route. Je vois la grâce de Dieu toucher peut-être d'autres personnes. Et moi, je suis là, sur le bord, je me sens seul. Et Dieu est touché par cette solitude. Il est vraiment touché par cette solitude. Seigneur, je n'ai personne pour venir à mon secours. Littéralement, il dit même, je n'ai pas d'homme. J'ai pas d'homme. Il n'y a personne qui vient. Je suis seul. Et Ésaïe avait prophétisé, le Seigneur enverra un homme pour les sauver. Seigneur, je n'ai personne, je me sens seul. Ça peut arriver à tout le monde de se sentir seul. Cette solitude qui est pesante, on est sur le bord, on attend, on ne voit pas le miracle arriver. C'est long, on peut même parfois désespérer. Je n'ai personne, et bien le Seigneur enverra un homme. Cyril de Jérusalem écrivait sur ce passage, tout seul abandonné, donc le paralytique, a eu pour l'aider le Fils unique de Dieu. Parce que toi, tu n'as personne, celui qui, pour toi, s'est fait homme, te guérit. On se sent seul, abandonné, on attend des promesses, on attend des choses particulières. On attend quelque chose, mais c'est ce quelqu'un, ce Jésus qui vient nous toucher dans notre situation, qui vient nous guérir, qui vient nous renouveler. Pendant des siècles, on attendait le Messie. Il y a des gens qui ont salué de loin les promesses. Et aujourd'hui, il est là au milieu de nous. C'est une promesse extraordinaire. Dernière citation. Et puis après, j'arrête là. Encore un père de l'Église. Grégoire de Nazianze. Hier, tu gisais sur un lit, languissant et abattu, et tu n'avais pas d'homme pour te jeter dans la piscine quand l'eau s'agiterait. Aujourd'hui, tu as trouvé un homme qui est aussi Dieu, ou plutôt un Dieu-homme. Ce que j'avais à cœur de vous dire ce matin, au travers de ces citations, de ce passage, et ça rejoint l'image de la veuve de Sarepta avec les vases, ça rejoint tout ce qui a été dit en fait. L'eau de cette piscine, ce cœur de Dieu, il bouillonne encore. Il bouillonne ce matin. Et il faut plonger dedans. Il faut y aller. Il faut y aller. Le cœur de Dieu bouillonne, il faut y aller. Et j'aime bien cette image de la piscine parce que là, c'est l'idée vraiment de plonger dedans. Plongeons dans le cœur de Dieu, dans ce bouillonnement-là, parce qu'il y a des choses qu'il veut faire. Et il veut aussi répondre à cette solitude que tu as peut-être, face à des attentes que tu as, à des combats. Des fois, on n'ose pas le dire aux autres, on le garde pour soi pendant des mois, des années. Seigneur, je n'ai personne. Ben si, je suis là. C'est moi qui vais venir, personne d'autre. Je vais venir te sauver de là. Mais cette eau s'agite, cette eau bouillonne, ce cœur bouillonne. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous renouveler, pour nous relever. Cette même eau qui bouillonne ce matin et que Dieu va faire prendre dans nos cœurs, continue de faire jaillir. J'aimerais juste prier, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton cœur qui brûle pour nous, Seigneur. Et en fait, on voit cette eau qui jaillit, on voit ce bouillonnement, on voit ton cœur qui nous dit, mais plonge en moi, totalement, de la tête aux pieds, plonge en moi. N'aie pas peur, vas-y, peut-être retourne-y, peut-être ça fait quelque temps que tu n'as pas osé replonger dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus. Replonge, replonge et trouve cette guérison. Trouve cette paix, trouve cet amour, trouve ces promesses qu'il a pour toi. Mais plonge dans son cœur, dans ce bouillonnement-là. Le remède n'est pas épuisé. Il est infini. Plonge dans ce bouillonnement-là. Laisse-le t'envahir. Laisse-le renouveler tes pensées, ton cœur, tes espoirs, tes idées. Laisse-le réformer ton cœur. Seigneur, Saint-Esprit, je prie vraiment que tu viennes nous toucher ce matin. Saint-Esprit, je prie vraiment que tu viennes nous toucher comme tu as touché ce paralytique sur le bord de la piscine. Tu es le même aujourd'hui, Seigneur, et tu bouillonnes pour nous. Alors on va faire ce pas de foi ce matin et plonger dans ton cœur, dans ce bouillonnement, dans ton amour. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ce que tu es en train d'opérer dans les cœurs. Les guérisons intérieures, les guérisons physiques. Que ton bouillonnement vienne toucher toutes les dimensions de notre être, de la tête aux pieds. Merci de faire bouillonner en nous ton amour et ta grâce, ton pardon. Merci Jésus. Continue d'inonder, continue de déverser ton amour. Saint-Esprit, viens renouveler, viens guérir, viens panser les blessures et viens renouveler ta joie en nous, ta joie qui est notre force, Seigneur, ta puissance. Il n'y a que toi qui peux faire ça, Jésus, mais il n'y a que toi qu'on veut, on ne veut que toi. Alors viens, Seigneur, viens. Je prie aussi que ce bouillonnement il soit renouvelé chaque matin. Que chaque matin, on s'y replonge avant de commencer la journée. Merci Seigneur. Merci.
Solitude, et peut-être que tu as été abandonné par tes parents, mais c'est comme quelque chose qui te poursuit, et aujourd'hui encore tu te sens abandonné, tu as comme ce sentiment d'abandon qui est comme accroché à ta peau, et le Seigneur par son amour veut ôter, veut briser ces chaînes d'abandon, ce sentiment que tu ressens au plus profond de toi. Même si on te donne de l'amour, c'est comme si ce panier était percé, si ce vase était brisé et ça coulait et c'était un vase qui ne se remplissait jamais. Parce qu'il y a cette blessure d'abandon. Mais le Seigneur a dit que même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je te recueillerai. Et ce matin, il te recueille. Il te dit, je t'aime mon fils. Je t'aime ma fille. Jamais je ne t'abandonnerai. Je te tiendrai toujours la main. reçois l'amour du Père ce matin, qui vient attester combien il t'aime et qui vient ôter ce fardeau, ces pensées et ces chaînes d'abandon que tu portes depuis trop longtemps. Merci Seigneur pour la libération et la délivrance que tu opères ce matin sur ceux qui se sentent abandonnés, Seigneur, ceux qui se sentent seuls. Tu es là, Seigneur, et tu nous as fait cette promesse. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu es là, Seigneur, rempli de ton amour, rempli de ta paix. Jésus, toi le prince de la paix, tu viens. Tu viens remplir maintenant nos vases afin qu'on ne se sente plus jamais seuls.